C'est bien là? Ouais, ça a l'air. Entre les tenants d'un relativisme théologique un peu niais, en mode tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et ce prêt à s'appuyer sur le moindre désaccord théologique pour décider de qui est chrétien et de qui ne l'est pas, le sujet que je vais aborder ce matin est délicat. Ce sujet, c'est l'œcuménisme. Jésus, alors qu'il s'apprêtait à être crucifié, a adressé une dernière prière au Père avant son arrestation dans le jardin de Gethsémani. Et cette prière, c'est un testament. On lit là les dernières volontés de Jésus. Et sa dernière volonté, c'est que ses disciples soient unis. Il a prié pour l'unité des chrétiens. Et c'est assez curieux d'ailleurs de constater que cette question de l'unité des chrétiens est un sujet de division dans les églises. Mais ça soulève d'emblée deux questions. C'est quoi l'unité? Et c'est quoi un chrétien? Alors on va essayer de réfléchir un petit peu à ça ce matin, on va aller lire d'abord cette prière de Jésus, mais avant ça, comme à mon habitude, je vais prier, et ensuite on ouvrira nos Bibles en Jean 17, Jean chapitre 17. Seigneur, nous venons devant toi pour te louer en esprit et en vérité. Et nous voyons parmi nous des divisions. Alors parmi les grandes confessions chrétiennes, c'est une évidence, mais y compris parmi les dénominations, y compris dans les églises elles-mêmes, et parfois très simplement entre nous et un autre frère. Seigneur, nous voulons nous avancer devant toi humblement, parce que nous nous savons pécheurs. Nous savons aussi que c'est un sujet compliqué que celui-là, parce que nous ne voulons transiger ni sur l'amour, ni sur la vérité. Seigneur, nous te prions d'illuminer nos cœurs. Nous te prions de nous guider dans nos réflexions sur ces sujets qui ne sont pas des sujets simples. Si c'était simple, ça fait longtemps qu'on les aurait réglés. Nous te demandons de nous éclairer ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc le texte dont il est question se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Je l'ai dit, c'est la dernière prière de Jésus avant son arrestation. On va le lire dans son ensemble, ce chapitre. Voici ce que dit Jésus. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie et que comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont vraiment su que je suis sorti de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu sinon celui qui est voué à la perdition. Pour que l'Écriture soit accomplie. Maintenant je viens à toi, et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, c'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous. Nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité, et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ceux que tu m'as donnés, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a jamais connu, mais moi je t'ai connu, et eux, ils ont su que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, comme moi en eux. Amen. Les derniers mots d'un homme qui va mourir pèsent lourd en général. Et ici, je trouve qu'ils pèsent d'autant plus lourd que celui qui les prononce, qui les prie, a dit à ses disciples un peu plus tôt, en Matthieu 6, verset 7, « Lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, il leur a appris le Notre Père. Pas forcément pour qu'on le récite comme on l'a fait tout à l'heure, mais un peu comme modèle de ce que peut être une prière. Et une particularité, je trouve, de ce Notre Père, c'est qu'il va au but. Effectivement, il ne se répète pas, c'est direct. Et pourtant, cette prière de Jésus, cette dernière prière avant de souffrir sa passion, là, couvre tout un chapitre. Pour Jésus, donc, qui nous invite à des prières courtes, eh bien là, il nous offre une prière d'un chapitre entier où il insiste sur l'unité de ses disciples. Vraisemblablement, ça le préoccupait. Cette prière, c'est une prière en trois parties. D'abord, au verset 1 à 8, Jésus demande quelque chose pour lui-même. Et en fait, pas exactement pour lui-même en réalité, parce qu'il demande effectivement au Père de le glorifier, mais s'il lui demande ça, c'est pour que lui-même glorifie le Père et pour qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a confiés. Donc sa préoccupation, ça n'est pas tant lui-même que le Père et puis les disciples. Ensuite, au verset 9 à 19, Jésus prie Dieu de garder ses disciples dans l'unité, de les garder du mauvais, et de les consacrer par la vérité. Et finalement, au verset 20 à 25, il prie pour ceux qui, par la parole des disciples, mettront leur foi en lui. Et ça, eh ben, c'est nous. C'est nous qui mettons notre foi en Jésus grâce à la parole des disciples qui nous ont précédés, parce qu'ils ont témoigné auprès de nous, et nous avons cru. Et là, nous découvrons, au verset 21, que si Jésus demande au Père de garder unis les disciples que nous sommes, c'est afin que le monde croie que le Père l'a envoyé. C'est quand même un gros enjeu que celui-ci. Nous devons rester unis pour que le monde croie. Les divisions font que le monde ne croit pas. On peut le lire dans l'autre sens. L'enjeu de l'unité des chrétiens, c'est de permettre au monde de croire que Jésus a bien été envoyé par Dieu. Et c'est, je crois, une constante chez Jésus, cette thématique, puisqu'il a également dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde saura que nous sommes ses disciples. Si nous nous aimons les uns les autres, si nous sommes unis, c'est un témoignage pour le monde qui nous entoure. Alors, je ne vais pas décortiquer ce texte, on va être sur une prédication peut-être un peu particulière. Je voulais le lire, évidemment, parce qu'il nous parle explicitement de l'importance de l'unité des chrétiens, du fait que, puisqu'elle est au cœur de cette prière de Jésus, en fait, on ne peut pas faire de ça une question annexe, une question accessoire. On doit y réfléchir. Mais cette prédication s'inscrit dans une série entamée il y a bien longtemps, en septembre, que j'avais intitulée « Position ». On a abordé un certain nombre de positionnements de notre Église vis-à-vis de certains sujets. On a parlé de la place des enfants dans l'Église, de l'action sociale, du baptême sur confession de foi, du rapport entre la loi et la grâce. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'œcuménisme. Et la nécessité de l'œcuménisme, en fait, repose tout entier sur ce texte de Jean 17. Mais ce texte soulève des questions, et ce sont ces questions que je prétends humblement, j'espère, aborder devant vous ce matin. Donc effectivement, c'est une prédication assez peu classique. Et il faut commencer par définir ce qu'est l'œcuménisme et ce qu'il n'est pas. J'éprouve le besoin de le définir parce que je vois autour de moi ou sur les réseaux qu'il y a des mauvaises définitions qui circulent. Certaines personnes, mal informées sans doute, pensent que l'objet de l'œcuménisme, c'est par exemple d'essayer de créer une espèce de grande religion mondiale unique où les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes et toutes les religions se trouveraient dans une sorte de grande soupe syncrétiste où on s'aime tous parce qu'au fond, ce qui compte, c'est d'avoir une spiritualité. Voilà. Alors je caricature un peu peut-être en disant ça, mais pas tant que ça en fait, hein, grosso modo, c'est un peu ça. L'œcuménisme, ça n'est pas ça du tout, évidemment. L'œcuménisme, ça concerne les chrétiens, seulement les chrétiens. C'est la recherche de l'unité des chrétiens. Quand on est en dialogue avec les musulmans ou avec les bouddhistes ou avec je ne sais qui, on n'est pas dans de l'œcuménisme, on est dans du dialogue interreligieux qui n'a absolument pas la même finalité. Le dialogue interreligieux, il a un intérêt sociétal qui consiste en gros à dire que nous sommes des citoyens de bonne volonté, désireux de paix sociale et que nos diverses convictions de foi ne nous empêche pas en fait, de vivre ensemble comme citoyens d'un même pays. Voilà, on ne va pas se taper dessus, on ne va pas s'entretuer. En tout cas, on va essayer de ne pas le faire, ce qui est un minimum, il me semble. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu spirituel dans le dialogue interreligieux. Il n'y a pas d'enjeu spirituel dans le dialogue interreligieux. En tout cas, ce n'est pas ça qu'on veut vivre ensemble. Et c'est en tout cas pas ça que moi, je cherche à vivre quand je suis dans ce genre de dialogue. Il y a un enjeu de citoyenneté. L'œcuménisme, c'est un peu différent. L'œcuménisme, c'est un terme qui vient du grec oikos, qui veut dire maison. Et donc la motivation de l'œcuménisme, le souhait quelque part de l'œcuménisme, c'est de voir un jour effectivement tous les chrétiens réunis sous le même toit. Et ça, d'une certaine manière, c'est pas vraiment une option parce que c'est effectivement le désir de Jésus lui-même, celui qu'il a exprimé dans la prière que nous avons lue. Maintenant, il faut définir ce qu'est un chrétien et puis aussi de quel toit est-ce qu'on est en train de parler. Alors qu'est-ce qu'un chrétien ? Effectivement, en fonction de la réponse qu'on donne à cette question, on va délimiter l'œcuménisme d'une façon ou d'une autre. Pour certains, les chrétiens, ce sont les protestants évangéliques baptistes, calvinistes, capable de réciter par cœur le grand catéchisme de Westminster de 1649. Alors j'exagère peut-être un peu, et encore que, en fait, probablement pas trop non plus. Il y a des gens, effectivement, qui ont une définition très restrictive de ce qu'est un chrétien, et du coup, pour eux, l'œcuménisme, finalement, est assez simple à vivre, parce qu'ils sont déjà sous le même toit. Voilà. Pour d'autres, les chrétiens, ce sont tous ceux qui ont, quelque part, dans l'album de famille, des photos de baptême qui prennent là-bas la poussière au grenier. Et là, du coup, on a une vision, pour le coup, très, très, très large de ce qu'est un chrétien. Et là aussi, finalement, l'œcuménisme ne pose pas de grandes difficultés, puisque de toute façon, comme le chant de saint Paul Naref, on ira tous au paradis. Et le problème avec ce paradis du syncrétisme, évidemment, c'est que ce n'est pas celui dont nous parle la Bible. Donc la question, c'est où on place le curseur et surtout, sur quels critères on le fait. Je pense que c'est discutable. C'est pour ça que j'avance, je marche sur des œufs là, je vous le cache pas. Je pense que c'est discutable et tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est vous dire où je place le mien de curseur et pourquoi je le fais. La première fois que le terme chrétien apparaît, c'est dans la Bible. C'est en Actes 11-26 où nous lisons que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors je me dis, c'est intéressant, quelle était la foi de ces premières personnes à avoir été appelées chrétiens ? Parce qu'évidemment, on est bien avant toutes les divisions qui ont eu lieu par la suite. À cette époque-là, il n'y avait ni catholiques, ni protestants, ni orthodoxes. Ce qu'il y avait, c'était des disciples du Christ unis autour d'une foi qu'ils considéraient commune, une foi dont les contours n'étaient sans doute pas aussi bien dessinés qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le temps affine aussi nos croyances. Le temps les a affinées à travers notamment les divers conciles qui ont émaillé l'histoire et dont le premier se trouve déjà dans nos Bibles, on le voit au chapitre 15 du livre des Actes, où on voit là un point d'affinement de la foi chrétienne sur la question de la circoncision. Il y avait des avis divergents et l'Église a décidé en concile de ne pas imposer la circoncision aux non-juifs qui deviennent chrétiens. Voilà, ça c'est une manière d'affiner, on met un contour à notre foi. Alors, que sait-on de cette foi primitive ? Primitive, c'est pas péjoratif, hein, ça veut dire cette foi des débuts. Que sait-on de cette foi primitive préexistante au grand schisme du XIe et du XVIe siècle ? Dès le IIe siècle après Jésus-Christ, il y a des chrétiens comme Irénée de Lyon qui mentionnent un texte qu'ils appellent le symbole. On ne sait pas exactement ce qu'était ce texte, mais ils disent de ce texte qu'il était la règle de la foi reçue directement des apôtres. Alors je dis qu'on ne sait pas exactement, on a quand même une trace écrite très ancienne, assez ancienne, de ce symbole. La trace la plus ancienne qu'on a date du IIe siècle, elle vient d'un chrétien qui s'appelle Justin Martyr. Et puis ensuite, on trouve des versions plus élaborées au fil du temps, jusqu'à arriver vers le IVe siècle à un texte qui est connu comme étant le symbole des apôtres. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce symbole, je vais vous le lire, le symbole des apôtres dit ceci. Je pense que ça va vous rappeler des choses. En tout cas, si vous avez un arrière-plan catholique, ça va sûrement vous rappeler des choses. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. » Alors, petit aparté, peut-être que vous connaissez ce texte et peut-être que vous avez tiqué à la lecture que j'en ai faite, parce que si vous l'avez entendu dans l'Église catholique, vous aurez entendu « Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique. » Et moi, j'ai dit « à la Sainte Église universelle. » Pourquoi ? Ce n'est pas une différence de traduction. En fait, « catholique » veut dire « universel ». C'est intéressant à savoir aussi, ça. Donc, évidemment, quand on veut dire ça ensemble, on dit « universel », s'il vous plaît, merci, c'est mieux. L'Église est universelle, ou catholique, si vous voulez, parce qu'elle s'adresse au monde entier, elle concerne le monde entier. C'est dans ce sens-là qu'elle est universelle. Et c'est d'ailleurs pour ça, deuxième parenthèse dans la parenthèse, que parler de l'Église catholique romaine, en fait, c'est un contresens. Parce que ou l'Église est universelle, ou elle est romaine. Mais on ne peut pas être universel et romain, c'est pas possible, c'est l'un ou l'autre. Fin de l'aparté. Voilà, ça c'était le petit taquet au passage. Alors, toujours au IVe siècle, a eu lieu le concile de Nicée-Constantinople. Alors un concile, c'est, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est quand l'Église se réunit finalement pour mettre par écrit ce en quoi elle croit en fait. Et en général, les conciles se réunissent en réponse à une hérésie qui est en train de se répandre et où ça commence à faire trembler un peu. Donc on se réunit, on dit, attends, qu'est-ce qu'on croit vraiment sur ce sujet ? Donc là, l'hérésie en question à cette époque-là, c'était celle d'un homme qui s'appelait Arius, qui, sans entrer dans tous les détails, en fait, niait la nature divine de Jésus. Il disait Jésus n'est pas de nature divine. Et c'est effectivement un gros problème, parce que si Jésus n'est pas Dieu, alors il n'est qu'un homme. S'il n'est qu'un homme, il est pécheur. S'il est pécheur, il ne peut pas payer pour nos péchés, puisqu'il doit payer pour les siens. Donc, le salut est en jeu dans cette question-là. Et à cette occasion-là, donc, l'Église a formulé, ils se sont réunis, ils ont prié, ils ont réfléchi, et ils ont formulé la doctrine de la Trinité, qui affirme que Dieu est un en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les trois ont une même nature divine. participent de la même nature divine. Voilà ce que je crois être le fondement de la foi chrétienne, cette foi qui unissait ces premiers chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui adhère à la confession de foi de l'Église primitive, qui est le symbole des apôtres, et à la doctrine de la Trinité, qui est nécessaire au salut. Alors, du coup, ça cadre quoi ? Pour commencer, ça exclut les témoins de Jéhovah et les mormons, qui n'adhèrent pas à la doctrine de la Trinité. Et effectivement, ça inclut les catholiques, les orthodoxes, et tenez-vous bien, presque tous les protestants. Pas tous. Parce que oui, il y a des protestants qui nient la divinité du Christ, et c'est là qu'on voit aussi comment les cartes peuvent être rebattues. Ça veut dire que, finalement, on peut être plus proche d'un catholique que de quelqu'un qui s'annonce pourtant comme étant protestant. Donc en ce qui me concerne, c'est avec cette définition-là que je m'approche des autres confessions chrétiennes, parce que j'observe que ceux de l'Église primitive qui partageaient cette foi-là, c'est-à-dire symbole des apôtres plus Trinité, eh bien finalement se reconnaissaient les uns les autres comme chrétiens. Donc je fais de même, c'est discutable, je ne dis pas que... voilà, mais je fais de même, sans rien ignorer pour autant et sans rien minimiser de ce qui nous sépare aujourd'hui, parce qu'effectivement, l'histoire aussi a continué de se dérouler, et des conciles, il y en a eu d'autres, y compris des conciles qui nous disent à nous aujourd'hui que nous sommes des hérétiques. Donc bon, voilà. Il y a des motifs sérieux de séparation. Et puisqu'il y a des motifs sérieux de séparation, l'une des choses qu'il nous faut définir, à laquelle il faut réfléchir quand on entre dans une démarche œcuménique, c'est sous quel toit commun on est en train de prétendre se réunir, en fait. De quel toit est-ce qu'on parle ? Alors, on va répondre à la question, mais je vais faire une remarque préalable. Et cette remarque préalable, c'est que si nous avons à nous réunir sous un même toit, ça veut dire que nous ne sommes pas sous un même toit. Et je crois que c'est important de le dire, et même de l'affirmer, de l'assumer. Nous ne sommes pas sous un même toit. L'œcuménisme implique que nous reconnaissons que nous sommes sous des toits différents. Ce qui veut dire que vivre l'œcuménisme, ça n'est pas essayer d'avoir un pied dans deux églises différentes en disant « bon, allez, finalement, plus ou moins, ça passe, allez, va, c'est pas grave », c'est pas ça. C'est pas non plus naviguer d'une communauté à l'autre pour finalement n'appartenir à aucune. En fait, de mon point de vue, c'est tout le contraire. Vivre l'œcuménisme nécessite en préalable d'avoir les deux pieds bien ancrés dans une communauté. Je suis pas forcément très enclin à envoyer des gens pas très affermis dans des lieux, je dirais, d'œcuménisme, qui pourraient laisser supposer que finalement, tout ça, tout se vaut, c'est tout pareil. C'est pas ça l'œcuménisme. Je suis protestant, évangélique, baptiste. Alors, je suis pas que ça, je suis chrétien avant tout, mais je suis quand même protestant, évangélique, baptiste. Et quand je vais à la rencontre de l'autre, loin de renier cette identité, c'est avec cette identité-là que je vais à sa rencontre. Je sais qui je suis, je sais qui l'autre est, je ne prétends pas devenir ce qu'il est et je ne m'attends pas à ce qu'il devienne ce que je suis non plus. Donc maintenant, on va parler du toit commun. Et on ne va pas tricher. Vous allez vite comprendre pourquoi c'est utile, je crois, d'être bien planté dans sa propre foi pour aller à la rencontre de l'autre. Il se trouve que je connais la conception de l'Église catholique au sujet de l'œcuménisme. Je sais ce qu'elle est. Je ne suis pas naïf ni niais. Je n'ai pas de naïveté à ce sujet. Très officiellement, l'Église catholique se considère comme étant l'unique Église du Christ. En conséquence, elle parle des orthodoxes et des protestants que nous sommes comme des frères séparés. Séparés quoi ? Séparés de la vraie et unique Église du Christ, voyez. Et encore, ça, c'est gentil. C'est depuis le Concile Vatican II. Avant, elle parlait des hérétiques, quoi. Bon. En conséquence, si on prend la peine de lire les encycliques des différents papes sur le sujet de l'œcuménisme, ce qu'on lit, c'est que pour l'Église catholique, l'unité des chrétiens passe par une réintégration des frères séparés dans l'Église catholique. Voilà. Ça, c'est, je dirais, la vérité doctrinale sur cette question-là. Et évidemment, bien sûr que c'est absolument hors de question, quoi. Hors de question. Mais en même temps, on doit considérer, je crois, que ça, c'est une conception théologique. Si nous devions, nous, mettre sur le papier notre conception théologique de l'œcuménisme avec autant, finalement, d'honnêteté que le fait l'Église catholique, qu'est-ce qu'on dirait? Mais franchement, on dirait la même chose. On écrirait que l'unité des chrétiens passe nécessairement par le fait que les catholiques arrêtent d'être catholiques, passera nécessairement par le fait que l'Église catholique fasse ce qu'elle n'a pas fait au XVIe siècle, mais que nous, nous avons fait, à savoir se réformer, abandonner la tradition, revenir à l'écriture seule. On ne peut pas imaginer les choses autrement, je crois, si on essaye d'être honnête et effectivement de garder ses deux pieds bien ancrés dans sa foi. Donc évidemment, ça nous maintient séparés. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, je crois qu'on considère que l'œcuménisme ne peut se vivre qu'avec les personnes qui considèrent honnêtement que le seul toit sous lequel nous pouvons espérer être un jour réunis, ça n'est ni celui du pape, ni celui de Calvin, mais celui du Christ, parce qu'il est lui la tête et la pierre angulaire de l'Église. Une fois cette prémisse posée, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'honorer comme on peut, et ce n'est pas facile, la prière de notre Seigneur, et on le fait sans compromettre sa conscience. Ce qui, me concernant, donne à peu près ça. Je considère, pour ma part, que je peux assister à une messe, je peux y écouter la proclamation de l'Évangile, mais évidemment, je ne peux pas participer à l'Eucharistie, parce que, contrairement aux apparences, elle n'est pas l'équivalent de notre Sainte Cène, elle a un sens qui est profondément différent. S'il y en a que ça intéresse, on pourra en parler. Et je ne peux pas entrer en communion avec le sens qui est donné à ce qui se vit à ce moment-là. Donc, je m'abstiens. Je peux prier le Dieu et Père de Jésus-Christ avec des catholiques, mais évidemment, je ne peux pas m'associer à d'autres prières, notamment celles adressées à Marie ou aux saints, parce que ma compréhension des Écritures, c'est qu'ils sont morts et que la Bible nous invite à ne pas nous adresser aux morts. Je peux avoir des échanges fraternels avec des prêtres et des évêques, mais je ne peux pas les appeler mon père, je ne peux pas les appeler mon seigneur, parce que j'ai qu'un seul père et j'ai qu'un seul seigneur, et dans le meilleur des cas, ça fait de nous des frères. Je peux étudier la Bible avec des catholiques, bien sûr, mais je ne vais pas pouvoir les suivre dans la tradition, parce qu'il n'y a que la Bible qui fait autorité en matière de foi. Je peux vivre des célébrations avec les catholiques, mais je peux les vivre sur la base de ce socle que sont Jésus-Christ et sa parole. Et donc, quand on vit des célébrations, on est attentif à ce que ce qui s'y vit, eh bien, c'est possible de le vivre pour les uns comme pour les autres. Je peux vivre également des temps de discussion et d'échange avec les catholiques, mais je peux les vivre dans la vérité de ce qui nous rassemble et aussi de ce qui nous sépare. C'est pour ça que je n'ai pas de problème, par exemple, à signaler mon désaccord avec le frère Paul Adrien, comme je l'ai fait la semaine dernière, parce qu'il est hors de question de dire que tout se vaut. Et pour finir, nous pouvons, je crois, nous retrouver assez facilement autour des questions sociétales, d'une part, et de l'aide aux plus démunis, d'autre part. Alors, je termine sur un dernier point. C'est que ce que j'observe, c'est que les rapports qu'on peut avoir avec les catholiques, c'est surtout... Alors, je parle des catholiques parce qu'honnêtement, c'est surtout avec eux que les choses se passent, en vrai. C'est surtout une question de personne. Les catholiques nous renvoient souvent à la figure, non sans une certaine raison, il faut bien l'admettre, la multiplicité des courants protestants. Voilà, on est divisé. Quand quelqu'un n'est pas content, il s'en va, il fonde une nouvelle église. Ça, on nous l'envoie souvent à la figure. Et à cela, ils opposent l'unité de l'Église catholique. Et j'ai envie de dire que si on regarde ça d'un peu loin, on y croit. On parle d'ailleurs de l'Église catholique. Et théologiquement, c'est juste, c'est comme ça qu'ils le vivent et qu'ils le décrivent. Mais approchez-vous un peu et vous constatez que le catholicisme est quand même tout sauf un bloc monolithique. Des catholiques, vous en avez des progressistes encartés à la CGT et vous avez des intégristes d'extrême droite. Vous avez des charismatiques qui lèvent les bras au ciel et qui chantent en langue exactement comme chez les pentecôtistes, et vous avez des traditionalistes qui font la messe en latin. Vous avez même des cédévacantistes. Alors ceux-là, ils sont originaux, ils considèrent que le siège du pape est vacant, c'est-à-dire il n'y a plus de pape, il est vide, depuis au moins 1963, et que depuis, les papes qui s'y succèdent sont des usurpateurs. Alors moi, je veux bien y croire à l'unité de l'Église catholique, mais j'aimerais bien aussi, juste pour voir, mettre tout ce petit monde dans une même pièce pour voir à quoi elle ressemble en vrai, cette unité de l'Église catholique. Parce que dans les faits, je pense qu'il y en a pas mal qui se croisent pas très souvent dans l'année, quoi. Alors pourquoi je dis ça ? Ben, pour ce que j'ai dit au début, ce qu'on peut vivre avec des chrétiens d'autres confessions, c'est surtout, je crois, une question de personne. Il y a des catholiques avec qui je ne pourrais rien vivre en commun, et du reste, je pense qu'ils ne voudraient rien vivre en commun non plus, donc ça tombe bien. À Chambéry, en pratique, pour ce qui est d'ici, hein, puisque c'est ici qu'on est, l'œcuménisme se vit avec la communauté du Chemin Neuf. Alors, il y a sans doute d'autres catholiques, mais dans la pratique, c'est eux qu'on croise, c'est avec eux qu'on est en relation. C'est eux aussi qui sont à l'initiative, d'ailleurs, de cette démarche. On a régulièrement, dans notre église, des visiteurs de la communauté du Chemin Neuf. S'il y en a, ben, bonjour, bienvenue. Voilà. C'est peut-être pas très agréable aujourd'hui, mais... Mais voilà, il y en a régulièrement qui viennent effectivement, qui viennent nous rendre visite. On a dit la dernière fois que Jean-Marc a été aussi invité à prêcher là-bas. Bon, on est invité à prêcher, à annoncer la parole de Dieu. Moi, si on m'invite, je vais où que ce soit. Hein, je vais au Hellfest s'il faut. Hein. Donc ça, c'est pas un problème. La communauté du Chemin Neuf, c'est quoi ? C'est une communauté catholique à vocation œcuménique. Et cette communauté, elle est claire dans le fait que le toit sous lequel nous pouvons nous retrouver, ça ne sera pas celui de Rome. Ça sera pas celui de Rome. Le toit sous lequel nous pouvons nous retrouver, c'est celui de Jésus-Christ. Et tant qu'on reste d'accord là-dessus, alors je crois, pour ma part, qu'on peut vivre des choses ensemble. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait depuis de nombreuses années. Ça ne m'a pas attendu. Hein. Il y a des choses qui se faisaient déjà bien avant que j'arrive. Soit de façon formelle, avec l'aube de Pâques ou la rencontre de prière pour l'unité des chrétiens, une fois par an, ou parfois même l'évêque vient et assiste, soit de manière informelle, avec des chrétiens de nos communautés respectives qui se connaissent, qui œuvrent ensemble dans différentes actions sociales, notamment de la ville. Alors, voilà, le panorama, je crois, que j'ai décrit est finalement assez mitigé. Est-ce qu'on arrivera un jour à être sous le même toit ? Sous celui du Christ, je crois que oui, parce que s'il y a une chose qui est claire, c'est que le retour de Jésus va mettre tout le monde d'accord. D'ici là, je pense que vous aurez compris que c'est pas simple, en vrai. C'est pas gagné, même, je dirais. D'ici là, on fait ce qu'on peut. Simplement, on essaie, je crois, à notre mesure, et dans les limites qui sont celles de notre conscience devant Dieu, de faire effectivement écho à cette prière qui est sortie du cœur de Jésus, cette longue prière de Jean 17 dans le jardin de Gethsémani. Si c'était important pour lui, eh bien, je pense que c'est important pour nous. Ça n'est ni plus ni moins que ça. Je vais prier. Seigneur, puisque nous parlons d'unité, Seigneur, je te prie pour l'unité, pour commencer, de notre propre communauté. Seigneur, nous aussi, entre nous, nous voulons avancer, on l'a dit, en esprit et en vérité. La vérité de ta parole, d'abord, bien sûr, et la vérité aussi de ce que nous sommes les uns devant les autres. La vérité de ce que nous croyons, de ce que nous pensons juste, la vérité des noirceurs qu'il peut y avoir aussi dans notre âme, et c'est pour ça aussi qu'on a installé ce matin un ministère d'accompagnement pour faciliter cette possibilité de vivre en vérité devant toi, en vérité les uns devant les autres, parce que ta vérité nous rend libres. Ta vérité nous rend libres. Elle nous libère. Seigneur, l'unité, c'est ton Esprit Saint qui la façonne, qui la construit, qui la bâtit, Seigneur. Alors c'est vraiment vers toi que nous voulons nous tourner, que nous voulons tourner nos regards. Et nous savons qu'il n'y aura pas d'unité, quelle qu'elle soit, que ce soit au sein de notre propre Église ou que ce soit des dimensions plus larges, comme celle qu'on vient d'évoquer, il n'y aura pas d'unité qui ne passe par toi, qui ne passe par le fait de regarder vers toi, à toi, de tourner nos regards vers toi. Il n'y aura pas d'unité qui ne passe pas par le fait d'être toujours plus proche de qui tu es toi, de la connaissance de qui tu es. Et nous ne voulons pas vivre autre chose, y compris dans nos relations avec les autres confessions chrétiennes, nous ne voulons pas vivre autre chose. Seigneur, c'est difficile, c'est compliqué, parfois on y va à reculons, on n'a pas envie, parce que c'est beaucoup plus simple en fait d'être entre nous. On se connaît, on se comprend, on sait comment on fonctionne, on ne se choque pas les uns les autres, moins disons. C'est compliqué d'aller vers des personnes qui effectivement vivent et font des choses qui nous choquent, qui nous troublent, qui nous paraissent incompatibles même avec ce que nous considérons être la foi. Seigneur, nous le faisons aussi avec humilité, parce que nous nous reconnaissons nous-mêmes pécheurs, parce que même si nous essayons évidemment nous nous efforçons vraiment d'être au plus proche de ta parole, nous voulons être fidèles, nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons qu'il y a certainement des lieux où nous sommes à côté. Seigneur, nous avons besoin de toi en fait. Nous avons vraiment besoin de toi et peut-être que la base de l'unité, c'est simplement de nous agenouiller devant toi, de te prier, de nous attendre à toi. En tout cas, c'est sûr qu'à vue humaine, ça ne nous paraît pas possible, en fait. Mais puisque cette prière était dans le cœur de ton fils au jardin de Gethsémani, puisque ça lui importait tellement, puisque elle était tellement insistante, Seigneur. Nous ne voulons pas l'ignorer, simplement, nous ne voulons pas l'ignorer. Et ce que nous pouvons faire, nous voulons le faire en vérité devant toi, sans compromettre notre conscience. Seigneur, je te prie non seulement de guider notre communauté dans ce que tu veux nous voir vivre et faire dans ce domaine-là, mais aussi de guider chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il ne s'agit pas de violenter sa conscience, aucunement, mais que chacun puisse simplement réfléchir devant toi à ce que ça peut signifier que d'être dans l'unité avec les frères et les sœurs. Et probablement que ça commence en fait déjà par une réconciliation au sein même de notre propre communauté. Alors qu'il en soit ainsi et que nous puissions vivre ensemble cette unité déjà entre nous et puis plus largement si c'est possible et si c'est là que tu nous amènes. Au nom de Jésus, Amen.